France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Maître de l'histoire dans son vin et pour étudier les centres d'intérêt d'un auteur, d'une autrice, il n'est pas vain de survoler les titres de ses publications. Tenez, dans le cas de Laure Gasparotto. Le vin, un peu, beaucoup, passionnément. Si tu veux la paix, prépare le vin. Éloge de la Bourgogne, vigneronne. Ou encore, quand l'Orient inventait le vin, où nous apprenons que la route de la soif est le prolongement de la route de la soie. L'histoire à consommer sans modération.
Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact.
Laure Gasparotto, bonjour.
Bonjour Xavier.
Vous avez reconnu La loue, la cuisse, le film de Claude Zidi avec Louis de Funès, millésime 1976. J'évoquais pour ouvrir cette émission des titres de vos ouvrages. Si tu veux, la paix prépare le vin un peu beaucoup passionnément, vigneronne. Et puis quand l'Orient inventait le vin, vous êtes journaliste au Monde et il y a cette ligne directrice autour du vin. Si nous filons la chose, où arrivons-nous? À quel moment le vin est-il entré dans votre histoire?
Bien justement, pendant que je faisais des cours d'histoire, je me suis spécialisée au cours de mes études sur l'histoire de la Bourgogne au Moyen-Âge. Je suis médiéviste, j'ai fait mes études à Paris 4, à la Sorbonne, et j'étais avec Philippe Contamine, je ne sais pas si c'est un historien qui...
Ah oui, aussi c'est grand historien.
Un grand historien. Et donc avec Philippe Contamine, je me suis spécialisée sur l'histoire de la Bourgogne au Moyen-Âge, et en allant faire des recherches à Dijon, mais aussi en Flandre, à Lille, notamment, puisque toutes les archives de la Bourgogne sont aux archives du Nord, parce que la Bourgogne médiévale était très très grande, de la Savoie jusqu'aux Flandres. En fait, je me suis intéressée au vin, et parce que les ducs de Bourgogne étaient les ducs d'Occident, maîtres des grands vins qu'ils vendaient, enfin en tout cas qu'ils échangeaient avec la papauté d'Avignon à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert le vin de Bourgogne pendant mes études. Et là, ça a un peu changé les choses.
Vous aviez fait un bon sujet d'études, parce que effectivement, au moment de travailler sur le vin en Bourgogne, il y a l'obligation, mais ça c'est professionnel, de se rendre sur place, de saisir ce qui s'y passe et pourquoi pas de goûter.
Alors en revanche, mes études n'étaient pas consacrées au vin. Je faisais des études sur les lettres de rémission des ducs valois. Donc c'était, vous savez comment un seigneur pardonne une peine. Et c'est parce que j'allais à Dijon lire les lettres de rémission qu'on trouvait encore là-bas que j'ai découvert le monde du vin à côté. Et quand j'ai commencé à visiter des exploitations viticoles, je me suis rendu compte que les noms des vignerons bourguignons que je rencontrais, c'était les mêmes que ceux de mes archives des 13e et 14e siècles. Et je découvrais des gestes aussi qui étaient répétés depuis des siècles. Parce que quand j'ai découvert le monde du vin, c'était au début des années 90, et il y avait moins de changements dans la manière de faire du vin entre le 15e siècle et 1990 qu'entre 1990 et aujourd'hui. Parce que l'œnologie a vraiment beaucoup progressé. Et donc j'ai assisté aussi depuis les années 90 à vraiment une métamorphose du monde du vin. Et après, avec le regard d'historien, le vin est forcément devenu pour moi un mode de lecture, de sociologie, d'histoire. Enfin, vraiment, j'ai découvert que c'était un miroir de société. Et depuis, je suis revenue à la Sorbonne après un séjour en Bourgogne en demandant à Philippe Contamine de faire quelque chose autour du vin. Et il m'a dit, ah, mais le sujet est déjà pris. T'avais Jean-Robert Pitt, qui était à l'époque recteur, c'est pas le mot recteur, enfin, il dirigeait la Sorbonne, et qui avait ce sujet. C'est lui qui s'occupait de l'histoire du vin, donc je pouvais pas le concurrencer sur ce thème, mais je me suis rattrapée.
Oui, Jean-Robert Pitt, hein, qui est géographe et qui est un grand nom de cette histoire-là, et qui a effectivement présidé l'université Paris-Sorbonne, et qui ici ouvre ce champ sensationnel, gigantesque, qui nous fait placer le vin, vous venez de l'évoquer, au cœur d'une civilisation. Cette civilisation, elle est occidentale. Et vous, Laure Gasparotto, quand vous écrivez « Quand l'Orient inventait le vin », vous inversez la chose. C'est cette mise en profondeur qui nous fait partir de la Bourgogne médiévale et qui nous fait venir jusqu'à l'Antiquité perse.
Alors en effet, donc maintenant je suis journaliste et je reçois régulièrement des échantillons de vin. Et je reçois, il y a deux ou trois ans, un vin, une bouteille très spéciale qui s'appelle Cyrus. Un peu énigmatique, avec une année en dessous. Enfin, plutôt, je ne savais pas que c'était une année, mais c'était écrit 559. C'était écrit Cyrus 559. Et c'était marqué vin de France, fait à Bergerac. Vin perse, vin de France. Enfin, c'était un peu mélangé. Et je me suis demandé ce que c'était. Enfin, mais quelle est cette bouteille? D'où vient-elle? Et puis, j'ai goûté le vin et je me suis dit, tiens, il est vraiment intéressant. C'était une Syrah, de la Syrah plantée dans le Bergeracois. C'est pas du tout un cépage local. J'ai commencé à m'intéresser à la bouteille. 559, j'ai découvert qu'en fait, c'était une année. C'est l'année du début de l'Empire perse créé par Cyrus, d'où le nom du vin. Et 559 aussi, c'est la première déclaration des droits de l'homme, en fait. Et le vin que j'avais reçu était présenté dans un cylindre avec des écritures étranges, et j'ai compris qu'en fait ça reproduisait le cylindre de Cyrus qui est aujourd'hui préservé au British Museum. Et c'est vraiment aujourd'hui pour le peuple iranien le premier document qui montre que à un moment donné de leur histoire la liberté la liberté d'expression, la liberté des religions était respectée. Et donc ce vin que je recevais ce jour-là m'avait été envoyé par une famille iranienne réfugiée politique en France. Et j'ai compris aussi qu'autour du vin, toujours ce que je recherche dans le vin, c'est quelle est la signification du vin pour des contemporains? Qu'est-ce qui reste de l'histoire aujourd'hui? Et cette bouteille, pour moi, c'était vraiment une leçon d'histoire et de géographie extraordinaire. Et donc, je suis allée enquêter, je suis allée sur place, j'ai appelé le vigneron, qui n'était en fait pas un vigneron, mais un orthodontiste. Il s'appelle Masrour Makarimi, et qui a aujourd'hui 45 ans. Et qui est arrivé à l'âge de 10 ans en France pour rejoindre son père qui l'avait précédé. Son père qui avait fui l'Iran à la fin des années 79, début 80, lors d'une manifestation, le père de Masrour et sa femme ont été arrêtés. Enfin, lui a réussi à fuir, mais sa femme, donc la mère de Masrour, elle a été emprisonnée. C'était une prof de physique, une femme accomplie qui était recherchée par les mollahs à l'époque parce que elle était à la tête d'un mouvement féminin, et elle est restée en prison pendant 8 ans, où elle a fini hélas par mourir. Et donc Masrour ne l'a plus jamais revue. Et en fait, il y a toute une réinvention de cette famille en France, et le vin a permis aussi de se réinventer. C'est-à-dire en utilisant parce que le vin, on pense aujourd'hui que c'est la France ayant position c'est un exemple. La France est un modèle dans le monde au niveau du vin. Beaucoup de gens d'Australie, de Californie, d'Israël viennent se former à Beaune ou à Montpellier ou à Bordeaux. Donc la France, le vin est une langue universelle par lequel le français est important. Et donc Masrour Makarimi, qui a eu donc une formation à l'école laïque en France, avait envie de redonner quelque chose à la France en en plantant, en acquérant 2 hectares dans lequel il a planté la Syrah. La Syrah, pourquoi ? Parce que ça rappelait, il est né à Shiraz, en Iran, et la Syrah rappelait pour lui sa ville d'enfance. Et même si on ne sait pas aujourd'hui si la Syrah est vraiment originaire de Shiraz, mais en tout cas, les mots sont importants. Et les mots sont importants dans la civilisation perse, parce que c'est la civilisation de la poésie, et donc c'est vrai que moi, la poésie perse, celle qui véhicule aussi le goût du vin.
Et ça, c'est une histoire qui s'écrit sur le temps long, parce que nous entendons bien ici, quand vous évoquez, Laure Gasparotto, l'année de 1979 et la révolution islamiste en Iran, on est sur un temps particulièrement court. Hein, 1979, c'est hier, mais avec des conséquences absolument dramatiques. Mais l'histoire du vin lié à l'Iran et à la Perse, c'est une histoire beaucoup plus longue qui se transmet par la poésie.
Verse à mon cœur meurtri cette boisson féconde, pour ceux à qui l'amour fit blessure profonde. Je préfère l'ivresse et ses rêves dorés à la voûte du ciel, fond du crâne du monde. Je bois du vin, partout on me dit mais on ment, la religion est le vin absolument. Quoi ? Le vin saperait la foi religieuse ? Si c'est le sang d'Allah, j'en bois pieusement. Le vin est le rubis, la tasse, son logeur. Corps dont le vin et l'âme à la gagnante ardeur, tasse de fin cristal où la vigne miroite, larme ou frémit, cachée, le plus pur sang du cœur.
Omar Khayyam, lu par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire, poète de la fin du XIe siècle, du début du XIIe siècle, un poète perse. Et ici, Laure Gasparotto, nous avons vraiment cette idée que le vin est présent dans la poésie, donc présent dans la culture, sans doute quelque chose lié à une forme de raffinement, parce que poésie, raffinement, mais peut-être que d'ailleurs on en buvait, il y avait d'autres poésies, elles sont peut-être moins restées.
Oui, mais c'est vrai que du coup, quand j'ai découvert que la Perse possédait ce raffinement autour du vin, et d'ailleurs Masrour Makarimi, que j'ai rencontré, lui collectionne des objets autour du vin. Et quand je vois la qualité de ces objets, la finesse, les matériaux choisis, les matériaux précieux de luxe, je ne peux pas m'empêcher de dire que le liquide qui était à l'intérieur de ces coupelles était aussi raffiné que les coupelles elles-mêmes. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait vraiment une adéquation entre le contenant et le contenu. Il y avait vraiment la recherche d'une unité entre les deux. C'était une recherche esthétique. Et on a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui que on pense toujours que notre siècle est bien mieux que ceux des siècles précédents, mais je suis persuadée, parce qu'aussi le vin était sacré, le vin était aristocratique, que la qualité de la texture était aussi fine, aussi raffinée que les mots pour le décrire ou le contenant qui le présentait à la bouche de son consommateur.
La poésie, c'est une chose, il y a les représentations aussi, l'iconographie. Est-ce que le vin apparaît ? Est-ce que l'on croise du vin de manière régulière, liée à cette vie somptueuse et raffinée, liée à la Perse, liée à l'Iran ?
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vin est resté, le mot vin est resté dans la poésie malgré l'islam. C'est-à-dire que la Perse, avec l'arrivée des Arabes au 7e siècle, a vraiment changé de culture, et le vin est devenu quelque chose d'interdit, mais de toléré. Et on voit que cette tolérance, d'ailleurs avec Omar Khayyam, d'autres poètes comme Rumi ou Hafez qui parlent toujours du vin, et jusqu'au XVIIIe siècle, le vin est présent vraiment dans la civilisation iranienne. Et on le voit dans les récits de voyage comme ceux de Jean-Baptiste Tavernier au XVIIIe siècle, qui décrit les différents vins de Perse, en parlant même des vins de Shiraz qui sont par parmi les vins les plus qualitatifs de la région. Et il décrit même les coteaux, l'altitude, c'est vraiment passionnant. Et jusqu'à récemment, il y a eu du vin en Perse, et enfin en Iran aujourd'hui. Et Masrour, lui, me raconte ce souvenir sur les collines de Shiraz, avoir vu du vignoble, des vignes. Aujourd'hui, donc, elles ont été arrachées, ce sont des vignes abandonnées, mais la diaspora iranienne reste avec ce rêve d'un jour pouvoir, si jamais l'Iran est libéré, pouvoir retrouver du vin en Perse. Alors c'est amusant parce que Masrour Makarimi n'est pas le seul iranien ou même personne de cette région du monde comme l'Afghanistan. Il y a par exemple un Afghan aussi qui fait du vin en Alsace. Et on voit que c'est que le vin, même s'il n'est pas fait dans sa région d'origine, fait perdurer une certaine civilisation. Et c'est amusant parce que autour de ce vin de Cyrus qu'a créé Masrour, il y a une diaspora iranienne qui se retrouve. C'est comme si le vin, même loin de son pays d'origine, était un nouveau lieu, un lieu imaginaire autour duquel on se retrouve. Et ça, c'est une symbolique pour moi très très intéressante parce que, et là, je vais extrapoler, mais je pense que ce sont vraiment des études d'historiens qu'on pourrait mener. Et parce que j'ai beaucoup fait de recherches autour de la Bourgogne au Moyen-Âge, je me suis dit la Bourgogne est en avance de 1000 ans sur tous les vignobles du monde. Mais parce qu'en fait, on avait quand même ces fameux moines cisterciens qui étaient des gens cultivés et donc qui étaient en contact avec l'Orient. On envoyait vous savez, Saint-Bernard, les croisades, etc. Donc l'aristocratie bourguignonne avait été au Moyen-Orient et était revenue avec sans doute des cépages c'est intéressant parce qu'on peut faire croiser beaucoup de disciplines d'histoire. Les disciplines scientifiques, les disciplines littéraires, fouiller dans les manuscrits. Mais on sait depuis 2023, par exemple, on a eu des recherches faites autour des génomes des cépages, et c'est une centaine de chercheurs du monde, des Chinois, des Américains, des Français, qui ont fait des recherches sur les génomes à peu près 500 cépages différents. Et la conclusion de cette recherche qui est parue en 2023, c'est que précisément les cépages les plus anciens ne proviennent pas du Caucase comme on le pensait, mais justement du croissant fertile, ce qu'ils ont appelé le croissant fertile, donc le Moyen-Orient. Et on sait aujourd'hui que c'est vraiment en Iran et que les cépages les plus vieux cépages qui sont nés en Iran sont ceux qui ont été exportés. Donc il y a vraiment un mouvement des cépages de l'Est vers l'Ouest. Donc non, ce n'est pas la France et ce n'est pas l'Occident qui est à l'origine du vin, mais en fait, ce sont les Romains qui nous ont fait parvenir des cépages qui sont nés encore plus loin en Orient.
Avec la linguistique aussi qui nous aide parce que
la linguistique qui nous aide, et ça c'est extraordinaire parce que c'est une discipline. Si on croise les disciplines, le langage, par le langage on sait que le mot vin est une des racines les plus anciennes du monde et présente dans toutes les langues.
Avec ce mot-là qui n'a pas disparu, vous l'avez dit, avec les mots-là actuellement, et qui nous plonge dans la profondeur des temps, bien sûr, parce que avec ce vin, il y a toute une histoire de transfert, de déplacement. Vous nous expliquez que ces cépages de la Perse, de l'Orient, arrivent jusqu'en Occident. Ils suivent les routes de la soie. J'imagine, ce sont ces grands mouvements.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, donc, qui arrive donc par Venise, qui est la porte de l'Occident. Donc, c'était le port de Venise accueillait les épices, les soies et les vins. et les vins et le verre, les parfums d'Orient. Et parce que justement la Perse était très avancée dans les parfums, que pour véhiculer ces parfums, eh bien en fait il y avait du verre. On sait qu'en Iran, par exemple, pour servir le vin assez tôt, on les servait dans des carafes en verre. Et ça, c'est vraiment pionnier dans le monde du vin. On se rend compte à quel point l'Orient était très en avance, très raffiné. Ils sont allés très 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 loin dans le raffinement du service du vin, dans les arts de la table, bien plus raffiné que nous, parce que les arts de la table, le raffinement des arts de la table est apparu à peu près au XVIIIe siècle en Occident. Enfin, ça a commencé justement avec les ducs d'Occident au XVe siècle, mais vraiment on est allé beaucoup plus loin après au XVIIIe siècle. Mais l'Orient était bien raffiné, bien avant ça. Mais aujourd'hui, nos mémoires, qui sont courtes, ont oublié cette origine.
Dans la démarche que vous avez, Laure Gasparotto, il y a cette histoire, vous nous la racontez, vous expliquez bien cette réflexion sur les sources, le travail autour de la documentation, et puis le travail autour de la mémoire aussi, parce que quand vous parlez de Masno Makarémi, d'une famille réfugiée venue d'Iran, la volonté aujourd'hui de faire en France du vin qui rappelle celui d'Iran nous conduit à toute une histoire sans doute, mais aussi à un imaginaire familial, au sens où le vin était présent dans un monde où l'islam domine, hein, même si jusqu'à l'arrivée des mollahs et la révolution de 1979, le vin était permis. Mais dans un monde d'islam, le vin était là.
Et le vin était là, toléré. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a toujours du vin qui est fait de manière, sous le manteau. Masrour m'en raconte aussi comment son oncle, quelqu'un de sa famille en tout cas, allait chercher 5 kilos de raisins au milieu de d'autres fruits chez un maraîcher, le ramener à la maison, isoler le raisin pour aller l'amener au fond du jardin, et puis faisait ses courses comme ça pour essayer d'arriver à 20-30 kilos de raisins, et au fond du jardin aller faire son vin. Et je pense qu'aujourd'hui toujours cette façon de transmettre le goût du vin. Alors je sais pas si là on est peut-être, ce n'est sans doute pas du vin très raffiné, mais en tout cas c'est le sens du vin qui compte, quelque chose qui représente la liberté. Ça me rappelle Atik Rahimi, qui est quand même un auteur afghan qui est très connu, qui est arrivé en France sans parler un mot de français, quelques années plus tard qui a eu le prix Goncourt, me raconte que quand il fait une conférence, il met un verre de vin, même s'il n'y touche pas pendant la conférence, mais il met un verre de vin sur sa table comme un drapeau de la liberté. Donc le vin a vraiment plein de significations et cette signification est importante.
Oui, parce que quand vous écrivez le vin un peu beaucoup passionnément, il y a toute une réflexion sur une forme de chronologie, on peut dire, ces moments marquants de l'histoire du vin. Et dans la profondeur des temps, nous trouvons ces éléments anciens et des moments exceptionnels qui sont marqués pour nous par Jésus, le christianisme, où le vin lui-même change complètement de sens. Et dès lors, c'est une autre histoire du vin qui s'écrit encore en parallèle de celle qui existe déjà. Ce plaisir de la convivialité, le plaisir du vin, mais dès lors, le vin prend un sens tout autre.
C'est vrai que j'ai adoré écrire ce livre aussi, Le vin un peu beaucoup passionnément, qui raconte en 30 dates l'histoire du vin, toute l'histoire du vin. Et ce sont les éditions du Robert qui m'ont challengé là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas de date noir sur blanc qui résumait vraiment l'histoire du vin. Par exemple, je vais vous dire une date qu'on connaît sans la connaître. C'est le jeudi 7 avril 30. Le jeudi 7 avril 30, pas 1930, mais 30.
Le premier siècle.
C'est le premier siècle. Eh bien, en fait, c'est en fait le jour où le Christ réunit la veille de la Passion ses disciples et dit voilà, il a devant lui du pain. Il dit prenez ce pain et mangez-en tous, et prenez ce vin et buvez-en tous. C'est à partir de ce moment-là que il y a le vin devient sacré dans le monde chrétien. C'est un geste qui est répété. Donc c'est un jour qui change le monde du vin. C'est-à-dire que avant ce jeudi 7 avril 30, il n'y avait pas la transsubstantiation. Le vin est devenu le sang du Christ à partir de ce jour-là. Et en fait, mais dans ce geste, il transmet aussi tout le sacré du vin qui l'a précédé, parce que c'était du sacré qu'on retrouvait chez les Égyptiens, les Égyptiens qui aussi participaient à l'Empire perse, parce que l'Empire perse était l'empire le plus grand de tous les temps et allait vraiment jusqu'aux portes de la Chine et englobait à ce moment-là même la Géorgie actuelle. Donc, en effet, l'Empire perse est à l'origine du monde du vin.
Avec tant de signification pour le vin, parce qu'il y a ce sens religieux, avec toute cette construction autour de la personne de Jésus, après sur les dates, voilà, Jésus, quand est-il né, quand est-il mort, mais la symbolique est là, sachant que le dimanche, il y a la reproduction de ce geste avec le vin qui se transforme en sang. Mais il y a tant et tant de sens à donner au vin dans l'histoire. On a évoqué la convivialité, on a évoqué le raffinement aussi. Il y a aussi tout un aspect lié à la santé.
Vers la fin du XVIe siècle, apparut une nouvelle forme d'utilisation du vin pour les soins médicaux. Se basant sur l'idée que cette boisson était une source de vie, quelques médecins lancèrent la mode des bains de vin, qui, à les croire, faisait merveille dans les cas de dépression nerveuse ou d'affaiblissement général. Il faisait placer le malade dans une cuve remplie de vin nouveau et on entassait sur lui des grappes non pressées de façon que le corps fût complètement recouvert. Le patient devait rester une demi-heure dans la cuve, après quoi on le faisait sécher au soleil. Montaigne, qui expérimenta cette méthode sur lui-même pour soigner ses rhumatismes, en compte les bienfaits dans ses essais. La cure des bains de raisin en connut une nouvelle vogue. En 1776, voici ce que rapporte une gazette de Londres. Lord Crète, qui depuis de longues années souffrait de la goutte, vient de se guérir par un procédé français extrêmement simple et à la portée de toutes les bourses. Ce noble lord s'est tout simplement fait mettre en futaille.
En 1949, la radiodiffusion française se saisit du vin thérapeutique avec, il faut le rappeler, l'importance du vin comme soin éventuel. C'est pas pour rien que le Médoc porte le nom de Médoc. Dans cette histoire, Laure Gasparotto, il y a beaucoup de sens à donner au vin. Le piège est peut-être aussi la surinterprétation, l'application d'analyses valables dans un espace culturel sur d'autres espaces culturels. C'est ça aussi le danger et c'est pourquoi quand vous étudiez quand l'Orient inventait le vin, il y a toute cette réflexion aussi sur ce que cela signifie le vin en Perse à ce moment-là. En France aujourd'hui, en écho avec la Perse, mais l'importance du vin replacé dans un contexte culturel, c'est ça aussi qui est au cœur de la démarche pour approcher le vin.
Le vin, en effet, prend plein de sens. Par exemple, si le mot vin a pu perdurer aujourd'hui dans le langage perse, enfin dans le langage en Iran, en tout cas, on va dire ça comme ça, en Iran, le mot vin n'a pas pu être enlevé des textes par les mollahs. Et dans le Coran, il est toujours présent. Mais en fait, la signification qui est donnée par les religieux islamiques, c'est que le vin est cette boisson qui représente le paradis. C'est donc en fait, il y a plein de niveaux de lecture. Le vin n'est pas la boisson terrestre. Le vin est cette boisson de l'amour, en fait. Le vin signifie l'amour de Dieu, l'amour divin. Donc, en fait, il y a plusieurs lectures différentes. Le vin peut représenter dans la poésie le soleil, l'amour, le paysage. Le vin a beaucoup de sens différents. Et aujourd'hui, peut-être que c'est aussi, il y a dans la philosophie perse plusieurs climats. Parce que, en fait, l'Empire perse avait 7 grandes régions et il y avait un 8e climat qui n'est pas géographique et terrestre, mais ce 8e climat est en fait un lieu commun imaginaire. Et j'aime beaucoup parce que c'est le mot climat. Et ce mot climat qui, justement, appartient aussi au vignoble bourguignon. Et en fait, c'était un peu une épiphanie pour moi quand je me suis intéressée à l'histoire perse. Parce que ce mot climat, ce n'est peut-être pas un hasard s'il fait partie de l'histoire viticole bourguignonne. Parce que elle provient peut-être du Moyen-Âge. C'est, en fait, quand les moines ont fait, les moines cisterciens ont fait les recherches des lieux dits, vraiment il y a des recherches agronomiques, c'était des agronomes scientifiques, ils notaient tout, c'était des recherches anonymes et sur plusieurs dizaines d'années, parce qu'on sait bien que la vigne, elle est là pour 100 ans et que la vie d'un homme ne suffit pas à faire des études sur une vigne. Donc les agronomes cisterciens, eux, vraiment, ont fait des recherches sur plusieurs siècles. Et si aujourd'hui il y a un seul cépage de rouge et un seul cépage de blanc en Bourgogne, c'est le résultat de recherche agronomique de très longtemps. Et le climat, qui est aujourd'hui reconnu par l'UNESCO hein, comme patrimoine mondial, c'est donc le résultat d'une civilisation aussi, ce mot climat. Et peut-être ce mot climat provient aussi de la culture perse et a été occidentalisé par les moines cisterciens. Et donc représente aujourd'hui donc le climat, ce lieu imaginaire, et aussi ce lieu défini. Vraiment une délimitation sur le terrain. Et c'est intéressant parce que aussi le mot paradis qui est un mot en fait perse, c'est le paradé. Le paradis, c'est un jardin délimité. Il y a cette notion de délimitation. Et la délimitation, c'est aussi celle qui est autour des cimetières. C'est toujours le paradis est en fait un lieu délimité qui est sacré. Et donc le climat, qui est une vigne délimitée, a été sacré à un moment donné par des vignerons cisterciens. Donc, et donc le vin qui en résulte serait peut-être l'expression par les saveurs de quelque chose de divin. Voilà. Alors on peut vraiment extrapoler. Peut-être que je surextrapole, mais je pense que les saveurs peuvent aussi transmettre quelque chose. Et ça peut être une leçon d'histoire. J'ai fait l'expérience, par exemple, de goûter 100 ans d'un domaine viticole. Par exemple, le château Talbot, de 1919 à 2019, j'ai goûté 100 ans de vin.
Toutes les années ?
Pas toutes les années, mais beaucoup de ces années-là. Donc, j'ai fait un siècle d'histoire par mes papilles. Mais vous savez, c'était comme si je tournais les livres d'un livre d'histoire. Ouais. Parce que, vous savez, même le 1945 que j'ai goûté de Talbot, il y a un mot, et je ne savais pas que c'était le 45 quand je l'ai goûté. C'est incroyable comme les saveurs peuvent véhiculer des mots. En tout cas, j'ai eu le mot victorieux. Je me suis dit, tiens, ce vin est victorieux parce qu'il avait quelque chose de très expressif, de très vivant et très conquérant. Et on me dit, mais c'est le 45. Et c'était incroyable parce que le vin de 45 véhiculait un mot par les saveurs. Et toutes les saveurs véhiculent quelque chose. C'est très étonnant parce que j'ai vraiment vu les modes aussi apparaître. La mode au début des années 90, la mode du goût boisé, et qui a disparu en 2010. C'est extraordinaire parce qu'on peut voir vraiment par les saveurs aussi, c'est une lecture de notre société. Donc le vin est un langage pour moi universel qui communique des choses des hommes, en fait, en tout cas peut-être une poésie, mais aussi des intentions en dehors des mots. Et je pense que pour avoir goûté des dizaines de milliers de vins dans ma vie maintenant, je pense que je peux vraiment, grâce au goût d'un vin, être en relation avec l'intention de son artisan. Et là, je vais aller encore plus loin. Ça me rappelle un restaurateur de fresques romanes, un japonais, que j'ai rencontré en Bourgogne aussi. Il s'appelait Isao Takahashi. Il est décédé récemment, mais Isao Takahashi, il était formé au Japon comme restaurateur de fresques japonaises. Et quand il a découvert l'art roman en Bourgogne, il est devenu très amoureux des églises romanes bourguignonnes. Et il m'expliquait comment il faisait pour restaurer une fresque. Parce que parfois, dans les fresques, il restait presque rien de la couleur d'origine, mais il pouvait rester toute une nuit avec des lumières à regarder, uniquement regarder la fresque pour essayer d'être en relation avec la personne qui avait peint les murs. Et en fait, en essayant de comprendre l'intention du créateur, il arrivait, touche par touche, à retrouver les couleurs, les formes, et peu à peu, les dessins, il faisait réapparaître des dessins romans extraordinaires. Et je pense que par l'histoire, on peut aussi l'atteindre par nos sens. Lui, c'était par la vue. Il observait. L'observation est très importante. Quand on observe des paysages aussi, on peut observer l'histoire. Il y a l'observation par le goût, les saveurs. Ça, c'est vraiment une lecture d'histoire aussi qui n'est pas beaucoup transmise, mais qui demande aussi une pratique.
Bah oui, bien sûr, parce que faut le rappeler, dans le vin, il y a de l'alcool et l'alcool se consomme avec modération. Ici, dans l'évocation de ce siècle de vin que vous avez bu, nous étions où, disiez-vous ?
C'était Château Talbot à Saint-Julien, dans le Bordelais.
C'est dans le Bordelais, avec tant d'évocations autour du vin qui nous conduisent, et on l'a entendu tout à l'heure avec Omar Khayyam, en poésie au XIIe siècle. Et moi, je vous propose de la poésie d'aujourd'hui, Georges Brassens.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne, au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Le vin chanté par Georges Brassens dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Sam Bakias, avec aujourd'hui la technique Jean-Guilain Mège. Et aujourd'hui nous parlons du vin, Laure Gasparotto. Le vin, nous l'entendons, et vous nous l'expliquez, comme trait d'union entre des civilisations. Le vin né en Orient, né dans ce qui est aujourd'hui l'Iran, devenu dans notre civilisation cet élément incontournable pour saisir des millénaires d'histoire. Et puis, le vin, pour faire la paix. Si tu veux la paix, prépare le vin. Aidez-nous, Laure Gasparotto, dans ces périodes troublées. En quoi le vin peut-il nous aider à atteindre la paix?
Mais vous savez, la Pax Romana, par exemple, montrait que quand les Romains conquéraient des terres, ils disaient, mais en fait, vous savez, ce qu'on veut, c'est la paix. Et donc, la première chose qu'ils faisaient, c'était planter du vignoble, pour dire d'abord, on sera là pour longtemps, parce qu'on plante une vigne au moins pour 100 ans, et aussi pour apporter une civilisation et des échanges, le respect aussi du lieu, l'expression du paysage qui est conquis.
Pax Romana, quand Rome dicte les termes de la paix, c'est une émission du cours de l'histoire, retrouvée sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'est une histoire de lieu, cette histoire de vin. C'est ça qui est aussi très important à saisir dans la longue histoire de l'humanité. Le moment où le vin est créé signifie que les humains s'arrêtent à un endroit, parce que la vigne pousse sous forme de liane ici et là, mais pour faire du vin, il faut la planter, la cultiver, la domestiquer.
C'est ça, donc on sait aujourd'hui que le vin est concomitant de la sédentarisation humaine, donc correspond, et vraiment depuis le début. Donc on est remonté maintenant à 11 500 ans, peut-être que d'autres recherches prouveront que c'est encore plus ancien, parce que l'histoire, vous le savez, s'écrit sans cesse, elle n'est pas écrite une fois pour toutes. Moi, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du vin, on me disait que le vin datait de 6000 ans avant Jésus-Christ, et tout à coup, il y a 2 ans, on reculait encore ça de 2000 ans. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est extrêmement excitant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va découvrir ? L'une des premières personnes à avoir fait des recherches archéologiques autour du vin, c'est un Américain qui s'appelle Patrick McGovern, et je recommande à tout le monde de lire son histoire du vin, qui est paru en France il y a une dizaine d'années. Quand j'ai lu ce livre, c'était une nouvelle histoire pour moi, parce que il avait, je crois, à l'université de Pennsylvanie, il avait trouvé des fonds aussi grâce à un grand vigneron de Californie qui s'appelle Mondavi, qui a largement financé les recherches de ce laboratoire, et donc des recherches archéologiques où en Perse, il a trouvé parmi les premiers objets les plus anciens, et donc il a pu prouver que c'était du vin, que vraiment c'est aussi en Perse qu'est né les premiers vins de l'histoire, et c'est grâce à Patrick McGovern. Et donc il y a la recherche continue, et je me demande toujours, et il y a beaucoup d'angles de recherche. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça peut être les mots, mais aussi grâce à l'étude génétique, on peut aller encore plus loin dans l'ancienneté du vin dans notre humanité.
Dans l'ancienneté du vin, dans notre humanité, et dans ce désir de paix, il y a la Pax Romana, bien sûr, mais l'idée d'associer la paix et le vin est une idée ancienne, hein, c'est ce que vous montrez, Laure Gasparotto. Si tu veux du vin, prépare la paix. C'est quelque chose que l'on retrouve au Moyen-Âge.
Oui, on parlait tout à l'heure des ducs d'Occident, qui étaient un peu les ducs de Bourgogne, ouais. Voilà, qui s'étaient autoproclamés ducs d'Occident et qui vendaient leur vin au pape en Avignon. Le vin et l'Église, c'est aussi la transmission d'une paix. Il y avait du vignoble partout,
Ah oui, le commerce des églises, pour la paix, bien sûr.
Oui, c'était le lieu de reconnaissance, en fait.
Et sur la route des grands crus de Bourgogne, on croise un grand cru, c'est Meursault.
Eh bien, nous sommes ce soir à Meursault, dans une cave, comme il y en a beaucoup dans la région, et pour une manifestation, ma foi, qui s'avère fort sympathique. Bien sûr, on déguste beaucoup de vin, mais je crois que la particularité de cette soirée, c'est que les invités de marque sont ici. Il s'agit de Bourville et de Louis de Funès qui tourne actuellement, comme vous le savez, la Grande Vadrouille à Meursault sous la direction de Gérard Houry. Comment vous trouvez ce petit vin là?
C'est un Beaujolais.
Oui, mais comment vous le trouvez? Vous êtes sûr que c'est un Beaujolais?
Je le trouve dans mon verre parce que je suis lucide, je me rends compte que ce vin-là est dans mon verre, alors je le trouve dans mon verre. C'est ça que vous voulez que je vous dise?
Et vous, Luc Funès, comment vous le trouvez ce petit
vin? Très bon, excellent.
Vous êtes connaisseur, Luc Funès?
Pas du tout.
Un Beaujolais, c'est un...
Je sais goûter le bon vin quand même.
Là, vous venez de terminer le film La Grande Vadrouille avec Gérard Houry. Enfin, vous ne le terminez pas, mais vous le terminez à Meursault.
Oui.
Quel souvenir vous allez emporter de la Bourgogne et plus particulièrement de ces petits coins de Meursault, de Beaune, des coteaux de Bourgogne?
J'ai commandé du vin.
Mais pas...
C'est déjà des souvenirs.
Bourville, mais incroyable Bourville quand même. Quelle gentillesse et sens de l'humour implacable. Et Louis de Funès, bien sûr, Bourgogne Actualité en 1966. Laure Gaspard Otto, est-ce que au moment où, dans votre travail, vous allez à la rencontre, alors travail de journaliste pour le journal Le Monde, ou alors d'autrice hein, pour tous ces ouvrages, à la rencontre des vignerons, des vigneronnes, vous sentez le poids de l'histoire, cette charge absolument immense que au moment où l'on fabrique du vin, nous nous inscrivons dans une histoire ancienne.
Oui, il y a une responsabilité lourde. Souvent, elle peut être lourde, hein, cette responsabilité. Alors, vous parliez de Meursault. Alors, il n'y a pas de grand cru à Meursault.
Non, c'est pas de grand cru, mince.
Mais c'est un village où il n'y a pas de grand cru. Il y a des premiers crus, mais pas de grand cru. Mais quand, par exemple, on est vigneron à Meursault, on hérite déjà d'une vigne délimitée par des prédécesseurs et on hérite aussi du cépage chardonnay. Et tout ça est très cadré. Donc il y a déjà un passé et on doit trouver, nous en tant que contemporains, une liberté dans ce cadre très très délimité. Et donc le vigneron de Meursault doit être un maillon de la chaîne en fait. Il sait qu'il y a eu des prédécesseurs et il sait qu'il va transmettre c'est formidable parce que quand aujourd'hui je vois des vignerons planter de la vigne alors que d'autres arrachent ou il y a une déconsommation vertigineuse du vin, quand un vigneron aujourd'hui plante de la vigne, ça montre à quel point il a de l'espoir. Là, je voyais des images d'un vigneron israélien qui plante de la vigne. Il dit « Je crois en mon pays ». Donc, planter de la vigne, c'est une signification qui prouve qu'on va se projeter. Moi, je me souviens quand j'avais une maison de famille dans le Frontonnet, dont mon père a hérité à un moment, et je lui ai dit, mais on avait un peu de terre, et je lui ai dit, moi, j'adorerais planter de la vigne. Et la maison appartenait à lui et à sa sœur, et du coup, il en a discuté avec sa sœur, et en fait, le fait que je veuille planter de la vigne a accéléré la vente de la maison et la séparation. C'est intéressant, parce que à partir du moment où on plante, on se projette et on s'engage. Et donc, ça fait poser les bonnes questions dès le départ. Et quand un vigneron hérite et qui doit transmettre, ça peut être très très lourd. Aujourd'hui, on assiste à des choses dramatiques dans le monde du vin parce que c'est tellement lourd que c'est presque insupportable. Et il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres d'hériter de ça. Heureusement, il y a des néo-vignerons aussi qui transmettent la poésie, l'histoire. C'est exactement ce que j'aime aussi dans l'histoire de Masrour Makarémi. C'est qu'il hérite d'une histoire très très lourde et il l'allège avec la création de son vin. Et il transmet de la poésie, il transmet de la joie de vivre, aucune amertume en fait. C'est ça qui m'a... Alors qu'il a une histoire beaucoup plus lourde que beaucoup, et justement, le vin lui a permis de digérer l'histoire familiale et de la projeter vers une inconnue, mais quelque chose d'esthétique et de beau, de poétique qu'il souhaite transmettre à ses enfants. Ça fait partie de cette transmission de paix et d'espoir aussi.
Oui, parce qu'avec la vigne, il y a l'idée de racine et puis il y a l'idée aussi de transmission parce que tout cela, ce sont des lieux et puis ce sont des déplacements et ce sont des gens aussi. C'est ce qui nous intéresse.
France Culture, Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Laure Gasparotto, vous êtes aussi l'autrice de cet ouvrage Vigneronne au singulier, avec ce sous-titre « Quitter Paris, changer de vie et créer de son vin ». Au moins, comme ça, c'est tout un programme qui est mis en place. Vous nous avez évoqué ce changement majeur depuis les années 1990 dans la manière de fabriquer le vin. Vous nous avez dit qu'il y a comme des gestes millénaires qui se reproduisent jusqu'à il y a quelques décennies. Quel est ce changement ?
Alors, ce changement, je dirais, c'est vraiment la scientification, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, l'œnologie a apporté beaucoup de précision. Ça c'est plutôt bien parce que les vins sont bons maintenant d'année en année, mais peut-être manque aussi d'âme ou d'intuition et qui n'est pas véhiculée. C'est-à-dire que souvent les grands vins d'aujourd'hui sont faits par des vignerons qui ont acquis la technique, mais qui sont bien au-delà de la technique et qui ont confiance en eux aussi pour, par exemple, décider d'un jour de vendange sans que ce soit l'analyse biologique qui lui dit bah, « Tiens, là, les équilibres de la plante font que c'est aujourd'hui que le vin est mûr. » Il y a une maturité que l'homme peut percevoir simplement par son palais. Il suffit de goûter le raisin, de croquer le raisin, voir si le pépin est mûr. Et en fait, ça, c'est un instinct animal. C'est pas pour rien que les oiseaux ou les sangliers vont manger les raisins juste quelques jours avant les vendanges, parce que ils savent que le raisin est mûr à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'une analyse de laboratoire pour le dire. Mais aujourd'hui, peut-être que on a on n'a plus confiance en soi et en ses sens pour faire du bon vin. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a parfois une homogénéisation du goût du vin parce qu'on fait trop confiance à son œnologue et plus à soi-même. Alors qu'il devrait y avoir un dialogue, parce que l'œnologue est très important, évidemment, mais il devrait y avoir un dialogue beaucoup plus entre l'œnologue et le vigneron pour que le sens humain du vin reste. Parce qu'on doit, le vin restera vin, sera poétique et toujours un intérêt pour moi s'il ne devient pas agroalimentaire. Si on industrialise le vin comme en réalité on l'a fait, on perd le goût du vin, on perd le sens du vin. Et en fait, le sens du vin, c'est le sens du lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vins de lieu. Et les vins de lieu ne peuvent exister que parce qu'un homme exprime son lieu et connaît très si bien son lieu qu'il connaît la différence entre un meursault charme et un meursault bouchère. Et ça, c'est vraiment parce qu'il connaît son paysage qu'il va réussir à trouver comment exprimer son lieu. Et quand je dis ça, c'est pas de la poésie, c'est vraiment, ça passe par des gestes d'artisan, des gestes, c'est un savoir-faire qui est lié à un lieu. C'est les us et coutumes, vous savez, les us et coutumes qui dépendent des lieux. Et or, aujourd'hui, les us et coutumes, en fait, se sont uniformisés. Et on retrouve parfois des dates de vendange qui sont pareilles à Bordeaux qu'en Bourgogne, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas.
Et d'ailleurs, les bancs des vendanges, enfin les bancs de vendanges qui pendant si longtemps ont rythmé le calendrier, c'était le moment où dans une communauté il était décidé que voilà, c'est le jour de la vendange.
Oui, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui les climatologues se réfèrent aux bancs des vendanges pour voir justement les changements climatiques. C'est très intéressant parce que la date des vendanges est aussi un outil d'historien du climat, par exemple. Ça, c'est aussi un aspect du monde du vin qui est très intéressant pour nos contemporains.
Comment un livre comme « Quand l'Orient inventait le vin », Laure Gasparotto, peut-il être reçu ? Parce qu'il y a toujours cette complexité hein, de lier civilisation, religion, et puis ces pratiques, sachant que le vin est très présent en Orient, en Perse, en Iran, depuis si longtemps. Il y a une approche difficile au sens où bah, vous prenez des précautions, on réfléchit bien au cadre à donner, pour le dire autrement. C'est plus facile de parler de vin en Bourgogne ou dans le Bordelais que en parler pour l'Iran.
Alors, écoutez, il n'a pas été traduit en farsi, hein, mon livre non plus. Mais en tout cas, il y a une communauté iranienne qui est très contente que ce livre existe. Avec les éditions Grasset, on a lancé le vin, justement, le 5 novembre dernier, dans une librairie perse à Paris, où il y a toute une communauté perse qui est venue et qui était vraiment heureuse de redécouvrir sa propre histoire. Et même une jeune femme est venue me dire « Je suis tellement contente de pouvoir dire à mes amis français, mais vous savez, c'est pas vous qui avez inventé le vin. » Et donc, c'est aussi redonner son histoire à ceux qui, enfin, à ceux qui le méritent. Donc, c'est non, il n'y a pas de précaution particulière, parce que c'est juste rendre à César ce qui est à César. Enfin, et là, plus loin que César, justement.
À Darius, ce qui est à Darius.
Ou à Cyrus,
ce qui est à Cyrus.
Exactement.
Dans la chanson de Georges Brassens sur le vin, Brassens disait « Quand on est sage, et qu'on a du savoir boire ». C'est ça aussi, le vin, c'est une forme de sagesse, parce que faut consommer avec modération. Et puis, c'est l'échange, c'est un moment de convivialité. On sait combien tout ce qui est échange est riche d'enrichissement pour les uns, les autres, échanger dans la sagesse, mais savoir boire aussi, ça c'est important.
Oui, parce que le vin est codifié. En effet, la consommation du vin a toujours été codifiée. Même en Géorgie, il y a des milliers d'années, il y avait ce qu'on appelait le tamada. Le tamada, c'était le maître de la table. Et c'est lui qui codifiait quand on buvait du vin. Tamada, c'est mada, c'est la table. Ta, c'est la tête de la table. Et ce personnage était celui qui rythmait le nombre de verres qu'on devait boire à table.
Ah ben voilà, au moins comme ça, c'était un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Bon ben, tamada, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus poétique pour l'évoquer comme votre démarche. Hein. Lorsque Gasparotto, à travers vos ouvrages, dans aux éditions Le Robert, il y a le vin un peu beaucoup passionnément, et chez Grasset on va trouver vos ouvrages, notamment Quand l'Orient inventait le vin, ses origines, allez, on va dire iraniennes pour être anachronique du vin. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup.
Amis, chantons avec ardeur. Amis, chantons ce gai refrain. Entonnons tous avec ferveur. Répétons ce joyeux refrain.
In vino veritas dans le cours de l'histoire, parce que dans le cours de l'histoire, il y a le fil histoire. C'est la chronique d'Emmanuel Arioli, qui a été retrouvée dans le fil Culture G, sur les réseaux sociaux, en vidéo notamment, avec aujourd'hui Emmanuel qui s'intéresse à la notion du temps. Et si le temps était un instrument de pouvoir?
Et si le temps était un instrument de pouvoir? Déjà au Moyen-Âge, entre les cloches des églises et les premières horloges publiques, on sait que celui qui contrôle le temps domine les autres. Une histoire qui résonne étrangement avec nos smartphones et nos agendas surchargés. Au Moyen-Âge, le temps appartient d'abord à Dieu. Les cloches scandent la journée avec 8 moments sacrés. Matine, laude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpre, compli. Ces heures ne tombent pas à intervalles fixes. Elles suivent la lumière naturelle et changent donc selon les saisons. Les cloches ne règlent pas seulement la vie des moines, elles structurent aussi le quotidien de tous. Le temps de travail des paysans, les repas et bien sûr les prières. Dans un monde sans heures précises, ce sont souvent les seuls repères temporels. Bien sûr, il existe d'autres instruments pour mesurer le temps. Le cadran solaire, quand il fait beau et pas la nuit. Ou la clepsydre, le sablier ou la chandelle graduée, utile mais capricieux. On mesure parfois le temps en récitant des prières. Dans les manuels de recettes, une durée de cuisson correspond à un certain nombre d'Ave Maria. À condition de ne pas trop traîner, sinon vos pâtes seront trop cuites. Et puis vient une révolution. À la fin du XIIIe siècle, apparaissent les premières horloges mécaniques dans le nord de la France et en Angleterre, puis en Italie, en Allemagne et ailleurs en Europe. Cette invention devient possible grâce au progrès du travail du métal et surtout grâce à un nouveau mécanisme capable de faire tourner les engrenages de manière régulière. Ces horloges sont énormes, peu précises, mais bien visibles sur les tours, les beffrois et les cathédrales. Le temps quitte les monastères pour entrer dans les villes. Et avec l'essor de la nouvelle classe citadine, la bourgeoisie, on invente même la cloche du travail, qui marque l'ouverture et la fermeture des activités. La ville médiévale s'invente en tant que collectif, régulateur affiché sur les lieux de pouvoir. Très vite, contrôler le temps devient un enjeu de pouvoir, disputé entre autorités politiques et religieuses. En 1370, le roi Charles V commande une horloge pour le palais de la cité. Paris a sa première grande horloge publique. Dans le royaume, les autres sont censés se régler sur elle, en théorie du moins. C'est une tentative d'imposer un temps unifié, monopole, non plus de l'Église, mais du roi. Peu à peu, la mesure du temps devient aussi un privilège individuel, avec les horloges domestiques, puis au début du XVIe siècle, avec des montres de poche. On peut littéralement importer l'heure sur soi. Bien avant Benjamin Franklin et son « Time is money », le Moyen-Âge avait compris que celui qui contrôle l'heure contrôle les autres. Et aujourd'hui, nos montres ont remplacé les cloches, nos smartphones, les horloges de beffroi, nous courons de plus en plus. Mais la prochaine fois qu'on vous demande l'heure, arrêtez-vous un instant. Vous ne donnez pas juste des chiffres, mais un millénaire de lutte pour dompter le temps. Dire l'heure, c'est encore exercer son petit pouvoir médiéval.
Merci Emmanuel et Arioli dans le cours de l'histoire, le fil Culture G, le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Chloé Rouillon et Mayouen Guizio. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.